ラジオオカピ
オカピ
オカピセービスダティマンポコ
オカピ。
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Que faire pour ne pas se faire escroquer, se faire arnaquer dans les démarches pour les études au Canada? Nous en parlons avec Emmanuel Kambi. Il est cofondateur et directeur général d'Étudie, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent étudier à l'étranger, au Canada spécialement. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-716-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires. Questions et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos suggestions, témoignages et commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tatima Poukou, c'est moi qui anime et présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Yamatouaki. Elise Kavira s'occupe de la réalisation et Pierre Diassinois est à la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Que faire pour ne pas se faire arnaquer, se faire escroquer dans les démarches pour les études au Canada? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. De nombreux étudiants congolais désirés étudier au Canada sont victimes d'escroqueries orchestrées par des réseaux criminels, des cabinets de facilitation des démarches. Certains candidats reçoivent des lettres d'acceptation contrefaites, des preuves bancaires triquées pour satisfaire aux exigences des visas et parfois même des promesses mensongères des bourses d'études. Ces promesses fallacieuses que proposent certains consultants en immigration fraudulée attire des Congolais qui caressent, qui ont les rêves de poursuivre leurs études au Canada. Et ces pratiques ont des conséquences graves pour les étudiants qui se retrouvent souvent dans des situations précaires une fois arrivés pour des raisons d'études au Canada. Que faire pour ne pas se faire arnaquer dans les démarches pour les études à l'étranger? Nous en parlons avec Monsieur Emmanuel Kambi. Nous rappelons qu'il est cofondateur et directeur général d'Étudie, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent étudier au Canada. Monsieur Emmanuel, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Vous confirmez qu'il y a beaucoup de cas d'arnaque, beaucoup de cas d'escroquerie pour des cas de démarches des gens, des étudiants, des candidats qui désirent faire des démarches pour venir étudier au Canada.
Le sujet que vous abordez est un sujet qui est très important. Lorsqu'on regarde des chiffres de près, on réalise qu'en 2023, c'est 559 millions de dollars en perte financière liée à la fraude au Canada.
Monsieur Manuel, s'il vous plaît.
Il y a beaucoup de fraude.
Oui. Est-ce que vous avez activé les haut-parleurs de votre téléphone?
Si, si.
Désactivé les haut-parleurs. Vous avez mis les casques aux oreilles?
Non, il n'y a pas de casque.
Ok, là, ça s'est nettement amélioré. Allez-y, récapitule ce que vous avez dit au départ.
Par la fraude financière. On regarde les chiffres de 2023. Ça représente 500 millions de dollars en pertes financières liées à la fraude. Je confirme effectivement, il y a beaucoup de cas d'arnaque liés aux études au Canada. Concerne non seulement les étudiants qui sont, mais surtout ceux qui sont.
Oui, dis-moi, monsieur Emmanuel, la qualité phonique n'est pas assez excellente. Vous êtes dans un local. Est-ce qu'il y a une fenêtre à côté? Penchez le téléphone du côté de la fenêtre pour améliorer la qualité de l'écoute.
D'accord. Je suis dans ma voiture.
S'il fait pas assez froid, baissez la vitre pour améliorer la qualité de l'écoute.
D'accord. Très bien. Je vais pouvoir faire ça comme ça.
Voilà. Vous étiez en train de dire, de confirmer au fait ce que j'ai dit dans mon introduction.
En effet, oui. Donc, je disais effectivement, est-ce que là, ça améliore un peu ou
ça marche toujours pas? Ça s'est amélioré. Là, on vous écoute très bien.
D'accord. Donc, je disais effectivement que malheureusement, ce phénomène d'arnaque et de fraude est très courant au Canada. Et c'est près de 660 millions de dollars en 2023 qui ont été rapportés au niveau de la fraude financière. Et les étudiants africains sont les plus concernés, plus particulièrement ceux qui sont de la RDC.
Et comment s'y prendre si l'on veut, pour éviter de tomber dans les panneaux de ces agences frauduleuses?
Déjà, il faut dire qu'il y a les fraudes qui sont catégorisées. Vous avez des fraudes ou des arnaques qui sont liées aux lettres d'admission. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des arnaqueurs qui vont vous dire qu'ils ont connaissance dans les établissements d'enseignement. Donc, si vous voulez donner de l'argent, ils vont vous trouver facilement une lettre d'admission. Et pourtant, les établissements ici n'ont pas de partenaires privés. Vous devez vous inscrire directement sur leur site internet. Ensuite, il y a des fraudes qui sont liées aux frais de scolarité. Beaucoup d'arnaqueurs vont vous dire que si vous donnez de l'argent, ils vont vous trouver une réduction au niveau des frais de scolarité. Ce qui est faux. Parce que déjà, les principes fondamentaux ici au Canada, c'est des principes d'équité. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité. Mmh. On ne peut pas donc vous concevoir, vous donner une réduction des frais de scolarité. Vous avez des arnaques liées au bourse. Vous dites que si vous donnez de l'argent, on va vous donner une bourse d'études. Or, une bourse d'études est liée à des conditions précises, dont notamment le fait d'être admis dans un établissement d'enseignement, d'avoir obtenu déjà l'admission, d'avoir obtenu le document d'immigration et d'être arrivé au Canada. Ce sont ces conditions qu'il faut remplir pour que vous puissiez bénéficier concrètement de votre bourse. Vous avez des arnaques liées au visa et au permis d'études. Souvent, les arnaqueurs vont vous dire qu'ils ont des relations de haut niveau au niveau du gouvernement du Canada. Et si vous leur donnez de l'argent, ils vont vous donner les visas. Mais selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il n'y a personne qui puisse vous donner ni visa, ni permis d'études. À part le gouvernement. On ne peut pas vous garantir quoi que ce soit. Donc, pour se protéger de ça, il faut absolument d'abord vérifier l'identité de la personne avec qui vous parlez.
Ou de l'agence. Est-ce que la personne est enregistrée ou de l'agence qui fait la facilitation.
Oui, il faut effectivement vérifier si la personne est autorisée déjà à vous accompagner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est autorisé à vous accompagner au Canada. On fait partie des ordres professionnels. Des licences et des accréditations pour offrir des services de conseil, soit en matière de choix d'études ou encore en matière d'immigration. Mais il faut toujours aussi
vérifier l'information. Monsieur Emmanuel, comment vérifier l'information pour s'assurer de la crédibilité de la personne avec qui je suis en train de collaborer pour des facilitations de mon voyage pour études au Canada?
Alors, je vous donne un exemple concret. Si quelqu'un vous donne des conseils en matière de choix d'établissement, de choix de programme d'études, la personne doit être un conseiller d'orientation. Or, il y a ici un ordre des conseillers et conseillères d'orientation. Donc, on peut rentrer son nom dans la barre des recherches. Si vous ne trouvez pas la personne, ni sa licence, ni son accréditation, c'est que la personne n'est pas qualifiée. Il peut de son propre chef décider de vous accompagner, mais elle n'est pas autorisée légalement à le faire. Et conséquent, la personne n'a pas non seulement les connaissances, mais aussi l'expertise pour pouvoir vous accompagner. Si c'est en matière d'immigration, on a un collège des consultants réglementaires d'immigration au Canada, auprès duquel on peut effectivement faire la vérification. ce n'est pas aussi mauvais de pouvoir appeler l'établissement d'enseignement et de demander, j'ai réfuté l'information, est-ce qu'elle est vraie? Donc, contre-vérifier l'information auprès de la source, là, une des meilleures façons d'éviter la mal.
Première étape, je vérifie, je tombe sur la bonne information de la personne ressource qui m'aide à faire les démarches. Et puis, on m'envoie la lettre d'accréditation. La lettre d'accréditation ou d'acceptation pour l'inscription, comment authentifier que la lettre, elle est véridique?
Déjà, la lettre doit être émise par l'établissement d'enseignement. Et lorsque l'établissement émet cette lettre, c'est via soit un courriel ou sur votre compte que vous avez créé sur les sites de l'établissement d'enseignement. Donc, vous devez avoir un compte. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il vous a trouvé une lettre, demandez à la personne de vous donner accès à votre compte qui a été créé à même les sites internet de l'établissement. Ensuite, vous pouvez effectivement envoyer cette lettre aux autorités de l'établissement pour demander si réellement ils ont émis cela. Parce que si vous ne faites pas cette vérification, l'anarchien va continuer à vous envoyer les documents. Et quand viendra le moment de déposer la demande du permis, par exemple, il se peut qu'on vous refuse. Mais si jamais vous passez par les mailles d'immigration, les conséquences peuvent être terribles plus tard. Parce que si l'immigration va être frauduleuse, vous serez banni du territoire canadien pendant 5 ans. Et vous ne pouvez pas non plus rentrer aux États-Unis. Et il y a certains pays d'Europe où vous ne pouvez même pas obtenir le visa Schengen. Parce qu'il y a des ententes de collaboration entre le Canada et plusieurs pays occidentaux.
Monsieur Manuel, il y a aussi, concernant les bourses, est-ce que il y a aussi des facilitations d'octroi des bourses parce qu'il y a des candidats étudiants qui pensent que il arrache l'inscription et facilement il a la bourse à partir de Kinshasa et puis ça lui permet dès qu'il arrive d'entamer les études par les biais de la bourse octroyée.
Alors, déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs types de bourses. Il y a des bourses qui sont liés à une province, comme par exemple au Québec, il y a ce qu'on appelle la bourse d'exemption, les droits de scolarité, selon les ententes conclues entre le Québec et plusieurs pays francophones, dont la RDC. Et pour ce genre de bourse, effectivement, quand vous l'obtenez, la bourse n'est pas encore effective. Vous devez ensuite obtenir le document d'immigration et ensuite arriver au Canada pour que la bourse soit effective. Et généralement, ce ne signifie pas que parce que vous avez gagné une bourse, vous ne paierez pas un sou. C'est souvent des bourses d'exemption des droits de scolarité. C'est-à-dire que les étudiants internationaux payent des frais supplémentaires par rapport aux étudiants locaux. Donc quand vous arrivez sur place, et vous avez gagné effectivement la bourse, vous devez quand même vous attendre à payer les frais que les locaux sont en train de payer. Les frais peuvent varier dans les domaines d'études et les établissements d'enseignement. Ensuite, la plupart des bourses sont obtenues au Canada. Ce n'est pas lorsqu'on est à l'étranger. C'est vraiment une fois que vous arrivez au Canada, que vous avez fait une première session, voire même une première année, et vous pouvez appliquer à la plupart des bourses. Et la plupart des bourses non plus ne couvrent pas forcément toutes les études. Ça couvre une partie des études. Donc, il faut quand même avoir l'argent pour payer ce qu'on appelle les frais de temps. Manger, boire, c'est loger, c'est promener, j'en passe.
Oui, Monsieur Manuel, est-ce qu'il y a aussi des cas d'étudiants ou des candidats qui a commencé le démarche ici et puis les démarches ont abouti et puis ils se retrouvent au Canada. Malheureusement, son nom ne figure pas sur la liste des candidats retenus à l'université.
Et en là, 2023 et 2024, il y a eu près de 1000 lettres qui ont été accordées par des fraudeurs. Ce sont des fausses lettres par lesquelles les gens sont venus au Canada. Parce que l'immigration n'avait pas encore mis un système de double vérification. Effectivement, ces gens sont bel et bien arrivés au Canada. Ils sont passés par l'aéroport. Mais une fois arrivés sur place, les gens se sont rendus compte que ces lettres étaient frauduleuses. Par conséquent, ces gens ne peuvent pas étudier. Leurs documents d'immigration sont tombés caducs. Les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas étudier ni à temps plein ni à temps partiel, et ces gens n'ont plus de statut au Canada. Ils sont devenus vagabonds. on en rencontre énormément ici. Moi, je travaille à la faculté des droits dans une université ici au Canada, au Québec. Je vous assure, monsieur Mampoubou, c'est terrible ce qu'on est en train d'observer, parce que les gens n'ont plus d'argent, ne peuvent pas travailler, et la plupart se retrouvent en train de dormir à la belle étoile.
Et parce que même pour louer un logement, dans ces conditions, la solution, c'est de demander l'asile.
En effet, la plupart des demandes ont demandé l'asile. De près de 5000 personnes au Québec, rien qu'au Québec, des étudiants internationaux qui l'année passée ont demandé l'asile. Donc c'est effectivement une solution, mais ce n'est pas une solution de facilité. Parce que ça prend au moins 3 ans pour qu'on puisse vous donner la réponse favorable. Et en attendant, vous allez pouvoir rester galéré.
Je vous garde en ligne, hein, le temps de partir au standard, hein, pour donner la parole aux auditeurs. Nous allons commencer par l'auditeur de Kikwit. Il s'appelle Bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, cher Tati. Bonjour à tout le monde.
On vous donne la parole. Bienvenue, Kinkala.
Oui, c'est vrai, cette histoire est vraie. Moi, je me rappelle, c'était en 2022. J'étais un peu dans les sillages où il y avait... Je ne sais pas s'il faut dire un cabinet qui proposait des bourses, il faudrait payer ceci, payer cela. Ce n'est qu'après, je me suis ressaisi. Je ne pouvais pas la situation claire parce qu'ils nous promettaient non seulement vous allez là-bas au Canada pour étudier, mais aussi il y a un boulot qui vous attend. Oui, oui. Par moment, je voyais comme si les cabinets en question commençaient vraiment à demander beaucoup d'argent. Je me suis dit, sûrement, au premier rendez-vous, ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. À chaque fois qu'on a un rendez-vous, vous changez de situation, vous changez de langage, il y a l'argent qu'il faut payer. Je ne trouve pas une issue favorable. C'est pour cela, moi, j'avais dit abandonner carrément. Mais à cela, j'aimerais peut-être, s'il faut demander à nos gouvernants, tous ces sont des Congolais qui souffrent. Si, à la limite, nos autorités pouvaient avoir un œil regardant sur ce point-là. À la fois de nous, je suivais sur RFI, il y a même les citoyens togolais qu'on promet pour aller faire les études en Russie. Quand ils arrivent là-bas, on l'intègre dans l'armée pour aller combattre en Ukraine. Oui, oui. Si à ce niveau-là, parce que l'État a l'obligation de protéger tous les citoyens, il ne pouvait pas laisser les gens venir arnaquer les citoyens qu'on les puisse partir en Europe ou au Canada là-bas, puisqu'ils nous promettaient les ciels ou je ne sais pas comment je peux l'exprimer. Sinon, qu'il reste du franc qu'ils nous font là. Donc l'État a l'obligation de nous protéger. On ne pouvait pas laisser les individus comme ça venir dans un pays, faire de n'importe quoi, et in fine, il n'y a rien.
Oui, mais bienvenue. Vous, personnellement, vous êtes à Kikwit. Est-ce que vous avez commencé le démarche sur place auprès d'une agence ou c'était sur Internet?
Non, non. Moi, à l'époque, j'habitais Kinshasa, si vous vous souvenez. Donc, ce n'est qu'à Kinshasa. C'était vraiment un cabinet physique. Okay. Je n'aimerais pas citer au moins l'adresse, mais c'était à Lupin.
Ok.
Ouais. C'est là où j'ai commencé les démarches. C'était pas en ligne.
Est-ce que vous vous rappelez du montant de la somme dépensée avant de vous ressaisir?
Oh, c'est pas moins de 1000 dollars.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Allez-y.
Oui, il y avait des documents. Ils doivent commencer par vous demander les documents scolaires. Ils doivent égaliser, faire ceci. C'est nous-mêmes qui prendrons en charge les démarches pour trouver les visas. Donc, tout ça, ce n'est qu'après je me suis ressaisi. Je ne trouve pas cette histoire vraie. C'est pour cela que j'avais dit abandonner.
Merci beaucoup pour votre témoignage patent. Monsieur Emmanuel, comment réagissez-vous à chaud par rapport au témoignage de l'auditeur de Kikwit? Bienvenue.
Oui, déjà, ce que Bienvenue dit, c'est très pertinent. Heureusement, ça a déjà touché plusieurs étudiants. En fait, je dois confirmer d'abord que lorsqu'on vient étudier au Canada, on a le droit de travailler. De travailler 24 heures par semaine pendant les études, en dehors du campus. Et on peut travailler à temps plein pendant la saison et congé d'études. Et donc, maintenant, dans son cas, lui précisément, et ce qui malheureusement concerne plusieurs personnes, moi je demande de pouvoir demander à la personne qui dit qu'il va vous accompagner de vous donner un plan d'action. Et dans ce plan, il doit vous expliquer quel est le programme qu'il a choisi.
Et les étapes à franchir.
Les étapes à franchir, effectivement. Tout le budget qu'il faut. Parce que ce n'est pas seulement le budget de frais de scolarité. C'est surtout le budget de frais d'instruction, les frais administratifs, les frais d'installation et les frais afférents. Et il faut qu'ils vous disent aussi tout ce qui concerne les billets d'avion. Bref, d'avoir avoir une idée générale, une vue d'ensemble sur votre projet. C'est de cette manière-là que vous allez décider les prochaines étapes à franchir. Mais vous ne pouvez pas juste croire sur parole, sans un plan établi qui vous démontre étape par étape comment votre projet va aboutir.
Et concernant les frais à payer, il a parlé de la légalisation, il a fait allusion à des documents homologués à distance. Comment suivre tout ça et se rassurer qu'on n'est pas en train de se faire rouler?
C'est vrai que les établissements d'enseignement exigent que les documents soient légalisés. C'est entre autres les relevés de notes, les diplômes, mais par contre, on ne demande pas que le passeport soit légalisé, parce qu'il est déjà légal. On demande parfois que les certificats de naissance puissent aussi être légalisés. Donc, les frais de légalisation sont tout à fait normaux. Mais par contre, comme souvent la personne n'a pas une vue d'ensemble de tous les frais qu'il doit engager, c'est ça qui cause souvent l'incertitude et les doutes vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'il faut présenter un plan global, de manière écrite, pour que la personne puisse avoir un document. Et j'ai dit par ailleurs aux gens, oh monsieur, bienvenue, il faut exiger un contrat écrit. Parce que c'est comme ça que vous allez vous protéger. En cas de problème, vous avez un document écrit qui va vous permettre de poursuivre ce cabinet ou cette agence.
Oui, mais si le cabinet existe réellement, s'il est virtuel, c'est compliqué. On retourne au standard, monsieur Emmanuel, pour donner la parole à monsieur Kissimba. Kissimba Benoît, qui nous appelle depuis la ville de Mbandaka. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour à Okapi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui. Ma question intéresse à l'invité. Je voulais savoir, est-ce que ces agences-là, les agences des études, ils sont arrêtés par le gouvernement? Et quelles sont maintenant les mesures à ceux qui, à d'autres agences-là qui bouffent l'argent de prix? Quelles sont les mesures qui sont prises par le gouvernement?
Merci beaucoup, M. Kissimba Benoît. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Mbandaka que vous intervenez. Emmanuel Kambi, je me tourne vers vous. Comment répondez-vous à M. Kissimba de Mbandaka?
La plupart des agences sont bel et bien enregistrées au pays. Ils ont tous les documents pour fonctionner. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'expertise de vous accompagner. Et comme il n'y a pas de mesures du gouvernement pour contrôler ces agences ou s'assurer que leurs activités sont menées légalement, malheureusement, la plupart prospèrent et profitent de la crédibilité de leurs clients. C'est au gouvernement de pouvoir mettre en place toute une batterie de mesures de contrôle, afin de s'assurer que ces agences, non seulement continuent à être légales, mais aussi, eh bien, sont autorisées, enfin, ont l'expertise pour accompagner ces personnes. Ça prend une expertise, ça prend aussi une certification pour pouvoir accompagner les personnes qui désirent venir étudier et travailler au Canada.
Il y a aussi, M. Emmanuel, des agences qui fonctionnent à distance, des agences en ligne. Dans ces cas-là, comment savoir que l'agence, elle est légale?
Moi, ce que je suggère dans ce cas-là, si l'agence est en ligne, c'est de contre-vérifier l'identité de la personne qui détient l'agence. Je rappelle ici, les gens au Canada doivent être accrédités par des autres professionnels. Donc, si quelqu'un n'a pas l'accréditation d'un autre professionnel, c'est difficile de lui faire confiance. Personnellement, je suis membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Donc, si quelqu'un veut vérifier mon identité, il n'a qu'à aller taper sur Google « Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec » et dans la barre de recherche qu'il met Emmanuel Kambi. Donc, il va voir un peu ce que je fais, les fonctions que j'occupe au niveau du cabinet étudié, même ce que j'ai fait comme fonction au niveau de l'université. Donc, c'est très important de pouvoir vérifier l'identité de la personne. Vous pouvez aussi vous fier aux avis. Hein. Il y a des gens qui ont été arnaqués qui laissent des avis sur Google et sur ci et là. Vous pouvez aussi vous fier sur ça.
Et il y a aussi, Monsieur Emmanuel, on trouve sur Internet des appels à manif d'intérêt pour des bourses d'études au Canada. Comment se rassurer que ces appels à manif d'intérêt pour tel État sont vrais?
Déjà, il faut qu'on apprenne à développer l'esprit critique. Parce que je trouve que dans cette génération, c'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. On croit facilement à tout ce qu'on nous présente. Mais on doit apprendre à développer un esprit critique. Et lorsqu'on vous parle d'une bourse plus précisément, posez-vous au moins trois questions. Cette bourse, elle doit, pour l'obtenir, faut remplir quelles conditions? Ensuite, quel est l'établissement d'enseignement qui propose la bourse? Et finalement, il faut aller prendre les noms de cette bourse et le mettre dans la barre de recherche ou sur Internet de l'établissement d'enseignement. Vérifiez si la bourse existe réellement. Si elle existe, vous allez la trouver sur le site Internet de l'établissement. Si vous ne la trouvez pas, il est fort probable qu'elle n'existe pas. Ensuite, prenez la précaution d'écrire à l'établissement d'enseignement directement pour pouvoir vérifier de la validité de cette bourse. Ce sont des petites actions mais qui peuvent vous éviter de tomber dans l'arnaque.
Et généralement, les bourses sont également conditionnées par l'inscription. Donc, si en amont, vous n'avez pas l'inscription, ça ne sert à rien de soumissionner à l'appel à manif d'intérêt.
Même quand vous allez à l'ambassade du Canada, de la RDC au Canada plutôt, on va vous dire effectivement qu'à chaque année, grâce à l'entente conclue entre le Québec et la RDC, il y a un certain nombre de bourses d'exemption qui sont données. Mais encore là, parmi les conditions posées, c'est d'avoir une lettre d'admission. Mais si vous n'avez pas de lettre d'admission, comment allez-vous obtenir une étude? Donc, c'est des questions à se poser et il faut vraiment être vigilant à cette étude.
Je me retourne encore au standard, Monsieur Emmanuel, pour donner la parole à Elvis qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa. Monsieur Emmanuel, bonjour. Excusez-moi, Elvis, bonjour.
Bonjour, bonjour Tati.
On vous donne la parole.
Ah oui, j'avais seulement peut-être des questions d'abord à poser, aussi donner un petit témoignage. Est-ce que le vidéo peut nous rassurer? Est-ce que oui, nous savons qu'il y a, on enarque les gens, mais est-ce qu'il y a des cas qui réussissent? Peut-être il y a des personnes qui suivent ces instructions même à travers un téléphone et ça réussit. Et d'aider. Est-ce qu'il y a des moyens, peut-être, il y a des gens qui dépensent de l'argent, peut-être, il a envoyé, il a fait tout ça pour les récupérer, peut-être, pour poursuivre ces personnes-là. Parce que, vous voyez un peu cette situation, si les gens flouent, aller peut-être au Canada, aller ailleurs, c'est parce qu'il faut aller peut-être chercher la meilleure vie par rapport à celle que nous vivons ici. Parce que, moi aussi, j'étais aussi, il y a un arqué, il y a une fois, mais il y a des choses, il y a actuellement, même sur les réseaux sociaux, Facebook, même côté X, on commence à vous envoyer que voyager au Canada en crédit. Ça peut, on peut vous envoyer directement comme ça que c'est en crédit. Si vous êtes prêt, vous allez commencer à envoyer les données comme ça. Est-ce que il y a des certaines personnes qui réussissent à ces personnes-là? Oui, il y a des arnaques, que moi aussi j'étais témoin. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui réussissent et d'aider? Est-ce qu'il y a des moyens à revenir pour réclamer ces droits?
Merci beaucoup, M. Elvis. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. M. Emmanuel, est-ce qu'il y a des cas de succès dans la démarche des voyages pour études au Canada?
Bien sûr que oui, il y a quand même des cas de succès. Je tiens à informer ici, c'est 37 000 personnes qui arrivent au Canada à chaque année, à partir de l'année passée 2024. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui arrivent au Canada, des gens qui remplissent évidemment les conditions pour pouvoir être là. Donc si vous remplissez les conditions nécessaires, vous allez être là. Les conditions nécessaires, c'est quoi? C'est un, vous choisissez un établissement, un programme d'études qui vous convient, vous vous inscrivez, vous avez la lettre d'admission. Alors, si vous êtes dans une province, vous obtenez les documents d'immigration de la province. Par exemple, au Québec, on appelle ça les certificats d'acceptation du Québec. Et ensuite, vous déposez votre demande du permis d'études en ligne. C'est en ligne que ça se fait. Vous payez ça $50. Si vous n'avez pas des données biométriques, donc empreintes digitales et photos, vous payez $85. Non, les tout, ça fait $235. Vous envoyez la demande et tout se passe en ligne dans votre compte que vous avez créé sur le site du gouvernement. Ensuite, vous avez 2-3 mois plus tard la réponse comme quoi votre demande a été approuvée. Mmh. À partir de ce moment-là, on vous envoie la lettre d'introduction. C'est cette lettre-là qui va vous permettre, avec les visas dans votre passeport, de voyager jusqu'au Canada. Vous arrivez à l'aéroport, on va vous remettre maintenant les permis d'études à main propre à l'aéroport. Et ainsi, vous allez pouvoir commencer votre aventure au Canada. Donc oui, il y a des gens qui viennent ici. Nous avons déjà fait venir beaucoup d'étudiants. Mmh. À partir de l'Afrique. Donc, je confirme effectivement que les gens viennent. Donc, ce n'est pas que ce qu'on dit, c'est pour décourager les gens. Au contraire, on veut donner de la bonne information pour que les gens puissent effectivement emprunter les bonnes voies afin d'arriver ici dans les meilleures conditions.
Et les démarches peuvent être entamées à quelle période exactement pour s'assurer que ça va aboutir dans les délais requis, hein, afin de commencer l'année académique à temps?
Moi, je suggère de s'y prendre 6 à 8 mois à l'avance. Parce que ça prend un mois et demi pour avoir la lettre d'admission. Mmh. Ça prend un mois pour avoir les documents d'immigration de la province où vous allez venir. Ça prend 3 mois pour avoir les visas, les permis d'études. Ensuite, vous avez à peu près 1 mois pour se préparer à arriver au Canada. Donc, quand vous calculez et tout, c'est à peu près 6 à 8 mois qu'il faut envisager pour pouvoir venir ici dans les meilleures conditions. Vous avez 2 sessions auxquelles vous pouvez étudier. Soit vous pouvez étudier à la session d'hiver, qui commence au mois de janvier, soit à la session d'automne, qui commence au mois d'août. Mais pour ça, il faut vraiment s'y prendre, comme j'ai dit, 6 mois ou 8 mois à l'avance pour déposer votre demande d'admission et ensuite passer par toutes les étapes jusqu'à arriver ici.
Elvis a fait allusion aux bourses à crédit ou aux voyages à crédit. J'ai pas compris au fait. Vous payez une partie et dès que vous arrivez à destination au Canada et que vous commencez à étudier, à travailler, vous commencez à rembourser. Est-ce que cette modalité également existe?
Ça, c'est de la pure, c'est vraiment une arnaque pure et simple. Il n'y a pas de bourse à crédit, il n'y a pas de voyage à crédit. Quelqu'un qui vous dit que vous allez pouvoir obtenir une bourse à crédit, ça n'existe pas. Déjà, le terme bourse à crédit n'est même pas dans le vocabulaire canadien. Et donc, si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être sûr et certain 100% que c'est un arnaqueur. Mais par contre, les bourses existent bel et bien. Mais comme j'ai dit, la plupart des bourses sont obtenus une fois arrivés sur place ici au Canada. Il n'y a qu'une minorité des bourses qu'on peut obtenir lorsqu'on est encore au pays. Encore là, il y a des conditions auxquelles il faut répondre. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une lettre d'admission qui est légale. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, le gouvernement du Canada a mis en place un mécanisme de double vérification. Donc, quand l'établissement d'enseignement émet une lettre d'admission et que l'étudiant l'a déposée lors de la demande du permis d'études, le gouvernement demande encore à l'établissement de pouvoir confirmer de nouveau si cette lettre est bel et bien vraie. Parce qu'il y a beaucoup de lettres frauduleuses, comme vous l'avez évoqué à l'entame de cette émission. Mmh. Et donc, il faut vraiment double vérifier cela. Donc, les histoires à crédit, des grâces, oubliez ça. Alors, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, si j'arrive au Canada à crédit, comment je vais payer des frais de scolarité qui, au collège, vont s'élever entre 7 et 12 000 dollars par session, c'est-à-dire entre 14 et 24 000 dollars par année. Comment je vais vivre au Canada pour vivre par année, ça coûte des 20 635 dollars par année pour vivre au Canada. Alors, comment je vais vivre, où est-ce que je vais trouver 20 635 dollars canadiens? Je rappelle que pendant les études, vous pouvez travailler jusqu'à 24 heures par semaine. Supposons que vous, c'est 24 heures par semaine, vous gagnez à peu près 1 000 dollars par mois. Mmh. Et vous payez 12 000 dollars des frais de scolarité.
Et vous devez encore rembourser la bourse à crédit. C'est compliqué.
Voilà, vous avez tout dit.
Il y a l'auditeur de, je reviens sur la préoccupation de l'auditeur de Kikwit, hein, qui s'est bienvenu, qui a fait allusion aux étudiants. Il a suivi sur RFI, qui devrait aller étudier au fait en IRSS. Maintenant là, il se retrouve dans le service militaire. Est-ce qu'il y a aussi des cas d'escroquerie ou d'arnaque dans ce sens au Canada?
Au Canada, c'est très rare, mais effectivement, ça peut arriver, parce qu'on nous a rapporté qu'à Montréal, il y a un réseau des pédophiles. Donc, ils font venir des jeunes ici, et une fois arrivés à Montréal, ils vont ensuite les mettre dans une maison à prostitution, et les filles vont commencer à faire la prostitution, parce qu'elles sont enfermées 24 heures sur 24. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aux parents, avant de confier votre dossier à la personne qui prétend accompagner votre enfant, des grâces, ayez au moins une conversation, non seulement téléphonique, mais surtout en visioconférence. Faites un appel vidéo avec la personne. Ensuite, demandez à la personne tout ce qu'il a comme accréditation. Qu'il vous envoie même ses documents d'identification. Pourquoi ? D'identité, pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir contre-vérifier les choses. Malheureusement, c'est les choses qui arrivent effectivement. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont tombées dans la prostitution au Canada. Elles ont disparu un peu du radar, mais elles sont là-bas. Elles sont ici plutôt. Mais c'est parce que ces jeunes sont tombées dans des réseaux mafieux où elles ont été jusqu'à aujourd'hui exploitées sexuellement. Et ça, pour moi, ça me fait mal de dire ça. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs plutôt, qui viennent ici avec de bonnes intentions d'étudier, mais comme au départ, elles n'ont pas pris la précaution de s'informer sur l'identité de la personne qui prétendait les accompagner, malheureusement, ça donnait des conséquences assez dramatiques.
Oui, et dès que les parents ont déjà beaucoup dépensé, elles ne savent pas retourner, donc elles sont à la merci de s'adonner à ces métiers, mais bien que dégradants. Parfois.
Et les parents ont souvent des dépenses énormes. Les parents ont vendu la parcelle, les parents ont vidé toutes leurs économies des plusieurs années. Et donc, dans ces conditions, souvent les parents aussi vont dire à leur enfant, quand il va arriver là-bas, je veux que tu puisses prendre soin de nous. Mais l'enfant, quand il arrive ici, il a une pression double. D'abord, une pression académique, parce que c'est pas évident d'étudier au Canada, donc ça prend vraiment de se familiariser avec les systèmes éducatifs. Ensuite, l'enfant a la pression financière. S'il n'a plus d'argent, donc l'enfant ne peut, il a la honte, en fait, de dire aux parents qu'il n'a plus d'argent. Donc, il est obligé de pouvoir travailler dur. Mais bon, les parents pensent que l'enfant jouit d'une vie idyllique ici, mais et pourtant, parfois, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aux parents, des grâces, restez en contact permanent avec votre enfant. Vraiment, appelez votre enfant, s'il faut, une fois par jour, faites-le, parce que ça va aider votre enfant à traverser souvent des situations compliquées ici liées au choc culturel.
À garder le moral notamment. Vous avez un cabinet de facilitation, d'accompagnement des candidats qui désirent venir étudier au Canada. Vous êtes basé ici à Kinshasa, où c'est? Est-ce que en province, vous avez également des représentations et vous travaillez comment exactement, M. Emmanuel?
Oui, on a effectivement un bureau qui est situé à Gombe, et puis on a une représentation qui est aussi à Lubumbashi. Donc, si les gens veulent avoir tous les détails, toutes les informations, je peux laisser mon numéro de téléphone, ils peuvent me contacter, et je pourrai les mettre en contact avec mes représentants sur place, que ce soit à Kinshasa ou à Lubumbashi.
Quelles sont les filières dans lesquelles vous facilitez les inscriptions et comment ça se passe exactement? Est-ce que c'est sur vous avez un album précis des filières que vous proposez ou c'est selon les besoins des candidats qui viennent vers vous?
On a vraiment une procédure très structurée. Dans un premier temps, on commence toujours par connaître la personne, connaître un peu ses intérêts, ses valeurs, ses aptitudes, ses compétences. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent étudier au Canada qui échouent lamentablement. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais plutôt parce qu'on les a orientés dans les mauvais programmes. Quelqu'un qui a fait littéraire au pays et puis vous l'inscrivez ici en mathématiques, il est fort probable que la personne va échouer. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle a choisi un mauvais programme d'études. Donc on commence vraiment par s'assurer que la personne, s'assurer des compétences et de l'intérêt ainsi que des valeurs et des aptitudes de la personne. Quand on sait que la personne est forte dans tel domaine ou dans tel secteur d'activité, ensuite, on va effectivement lui proposer une série de programmes d'études. Et la personne va choisir le programme en fonction de plusieurs critères, notamment les débouchés professionnels, parce qu'on ne veut pas amener des gens à étudier ici, ensuite devenir des chômeurs. On veut que les gens puissent trouver du travail à la fin de leurs études. Et ensuite, on va effectivement piloter les démarches
du début à la fin. Trouver du travail, M. Emmanuel, au pays ou au Canada?
Au Canada, il y a des gens qui viennent ici, Monsieur Tati, qui finissent les études, finissent un baccalauréat, une maîtrise, et n'arrivent pas à trouver du travail. Ils vont faire des petits boulots ici et là, mais pas du travail dans leur domaine de compétences. Et ça, c'est très malheureux. Parce que quand les parents ont dépensé près de 50 000 $ et ne pas être à mesure de pouvoir rentabiliser cela en obtenant un emploi à la hauteur des compétences,
c'est pas intéressant.
C'est très décevant. C'est pas intéressant. Donc effectivement, une fois qu'on a obtenu les documents d'immigration de la part de la personne a les pleins contrôles sur son dossier. Il a accès à tout ce qu'on fait parce que c'est une question de crédibilité, de transparence. Nous ensuite, on prépare la personne à arriver au Canada, on va lui trouver l'appartement à l'avance, on va l'accueillir à l'aéroport, on va ensuite l'accompagner dans son appartement. Durant les 4 premiers mois, on va accompagner la personne à pouvoir s'installer et s'intégrer. Et sur le plan des études, on a des mentors qui vont l'accompagner à réussir la première session parce que c'est la plus difficile. Et une fois que la personne a réussi la première session, maintenant on va pouvoir appliquer aux bourses d'études de la deuxième session parce que la plupart des bourses sont effectivement accessibles à partir de la deuxième session de la personne. Et finalement, on va aider la personne à trouver un emploi parce que c'est important que la personne trouve un emploi pour pouvoir s'intégrer évidemment dans le marché du travail mais aussi pour développer des compétences, tisser un réseau de contacts et surtout aussi avoir des références qui vont lui servir de tremplin une fois que la personne aura fini les études pour intégrer maintenant son domaine de compétences.
Quand vous parlez de la deuxième session, c'est la deuxième année d'études ou c'est le deuxième semestre de l'année académique?
Alors, une année composée de deux sessions, donc hiver et automne. Mmh. Donc, une session, c'est 4 mois. Alors, nous, effectivement, donc, quand on dit deuxième session, c'est toujours dans la même année, mmh. mais c'est au deuxième semestre, oui. Trimestre plutôt.
Ok. Alors, pour les démarches, est-ce qu'on peut se faire une idée? Lorsque nous venons, lorsqu'un candidat vient chez vous, qu'est-ce qu'il doit d'abord réunir? C'est vrai qu'il doit avoir un profil, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un coût lié aux démarches ou c'est selon les besoins?
Déjà, effectivement, les budgets vont varier selon les besoins de la personne. Il y a des gens qui nous contactent une fois qu'ils ont déjà obtenu leur document d'admission. D'autres nous contactent parce qu'ils veulent avoir un accompagnement au niveau de l'immigration. Mmh. D'autres nous contactent parce qu'ils ont déjà obtenu leur document d'immigration, mais veulent vraiment trouver un appartement, être accueillis à l'aéroport et ensuite installer. Bref, vraiment, les budgets varient effectivement selon les besoins de chaque personne. Mais la première rencontre qu'on accorde, elle est gratuite. Parce qu'on veut que la personne puisse nous connaître, mais aussi on veut connaître la personne. Si on peut aider la personne, on va lui dire, on va vous aider. Mais si on ne peut pas aider la personne, on va aussi être clair en lui disant, effectivement, on ne peut pas vous aider. Parce qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont nous dire, moi, je n'ai que 5 000 $. Faites tout ce que vous pouvez pour m'obtenir les visas. Non, on va dire clairement à la personne, on ne peut pas vous accompagner. Parce que 5 000 $, c'est pratiquement les frais des billets d'avion. Donc, vous n'avez pas l'argent pour payer les frais de scolarité. Donc, on ne peut pas vous accompagner. Ne nous payez même pas votre argent, parce que vous n'avez pas toutes les conditions pour pouvoir étudier au Canada. Vous pouvez utiliser votre argent pour créer votre business au pays. Et puis ensuite, quand vous allez avoir l'argent, revenez nous voir. Donc, c'est vraiment très important qu'on puisse effectivement accompagner les gens qui remplissent les conditions. Mmh. Et ça, c'est ça qui garantit, en fait, qui augmente, en fait, plus les chances d'obtenir les documents d'immigration. Même s'il n'y a aucune garantie, on ne peut pas garantir à la personne qu'elle va obtenir les visas, parce que ce n'est pas nous qui donnons le visa. Mmh. C'est le gouvernement du Canada qui a les prérogatives de donner les visas.
Il y a également, monsieur Malheur, des parents qui tiennent coûte que coûte à faire étudier leurs enfants au Canada parce que la qualité de l'éducation elle est assez élevée. Et également, il y a des ouvertures en termes d'employabilité, mais ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas assez de ressources pour satisfaire aux caprices liés aux démarches d'inscription et puis d'installation de leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Alors malheureusement, il y a beaucoup de parents qui tiennent absolument que leur enfant puisse voyager. C'est pour cela que parfois, certains de ces parents tombent dans les pièges des fabrications des fausses preuves financières. Donc ces parents vont aller voir les banques, ou en tout cas collaborer avec certains agents dans les banques pour fabriquer des fausses preuves des capacités financières. Mais les conséquences sont terribles, et je l'ai dit souvent aux parents. Lorsque le gouvernement détecte quel est votre dossier, votre document financier est un document frauduleux, automatiquement, non seulement vous refuse les visas, mais vous êtes interdit du territoire canadien pendant 5 ans. Et vous êtes interdit automatiquement du territoire américain pendant 5 ans. Donc c'est très grave. Mmh. Moi, ce que je dis aux parents, prenez le temps de vous préparer. Mmh. Ne vous précipitez pas, ne vous comparez. Mmh. Voilà, ne vous comparez pas à votre voisin. Mmh. Chaque personne a sa propre vie. Chaque personne a sa propre destinée. Donc, prenez le temps de vous préparer en faisant substantiellement d'économies. Quand vous allez avoir l'argent nécessaire, alors notre rôle, c'est de vous guider à choisir un bon programme. Il y a des formations professionnelles ici qui peuvent coûter moins cher. Mmh. Il y a des formations collégiales de 2 ans qui peuvent coûter aussi moins cher. Donc, l'idée pour nous, c'est de nous assurer que les programmes qu'on choisit est un programme qui correspond bel et bien à votre capacité financière. Et aussi, évidemment, qui correspond aux perspectives d'emploi ici au Canada, qui peut offrir la résidence permanente à la fin de vos études, qui peut accorder aussi à votre enfant la possibilité de pouvoir obtenir effectivement des bourses d'études une fois arrivé sur place, ainsi que des stages rémunérés, parce qu'il y a beaucoup de programmes, M. Tati, qui offrent des stages rémunérés. Des stages qui peuvent rapporter entre 10 000 et 15 000 $ par année. Mmh. Donc, ce sont des choses parfois que les gens ne connaissent pas. Mais nous, même si on vous dit les stages rémunérés, mais vous devez quand même avoir les moyens pour payer les frais de scolarité. Parce que les stages ne vont pas payer tous vos frais de scolarité. Ça va payer une partie, mais pas tous vos frais de scolarité.
Et est-ce qu'ici, l'année passée par exemple, votre cabinet a eu à faciliter les démarches? On peut se faire une idée sur le nombre de candidats congolais qui ont bénéficié qui se sont déplacés au fait pour étudier au Canada par les biais de vos facilitations ici à Kinshasa, puis à Lubumbashi?
Alors à chaque année, on a à peu près 3-4 personnes qui arrivent par les biais de notre cabinet. Et donc, et ça c'est sur 10-12 des dossiers qu'on traite. Parce qu'il faut dire que chaque dossier, il faut qu'il soit monté de manière la plus rigoureuse possible. Mais comme ce n'est pas nous qui donnons le visa, on ne peut même pas garantir aux parents qu'ils vont avoir les visas ni les permis d'études. Donc on va dire aux parents, ça dépend de plusieurs choses. Si vous avez les moyens nécessaires, évidemment, vous avez plus de chances de pouvoir venir ici. Il y a des précautions à prendre. Il faut payer, par exemple, la première année au complet. Ça, ça rassure le gouvernement que vous avez l'argent pour venir ici. Mais si un parent nous dit, non, moi, je peux pas payer tout de suite, je peux payer peut-être plus tard. Bon, dans ce cas-là, on va dire aux parents, nous, on va monter votre dossier, mais on peut vous dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de chances. Donc, nous, on vous conseille de revenir l'année prochaine quand vous allez avoir les moyens. Comme ça, on va vous accompagner. Donc, c'est à peu près 3-4 personnes qu'on va pouvoir effectivement accompagner par année. Sur 10 à 12 dossiers qu'on peut traiter. Il y a d'autres dossiers qu'on refuse carrément, on peut recevoir jusqu'à 100 dossiers, mais parfois on les refuse, pas parce qu'on ne veut pas forcément l'argent, mais parce qu'on trouve que les dossiers ne remplissent pas suffisamment des conditions pour pouvoir obtenir plus de chances d'avoir les documents d'immigration. Donc par conséquent, on dit aux parents, on ne peut pas vous accompagner, vous pouvez garder votre argent. Quand vous allez avoir les conditions réunies, revenez nous voir, ça nous fera plaisir.
Donc, en dehors des bonnes cotations, de tout le document à mobiliser, il faut aussi avoir une très bonne capacité financière à satisfaire pour avoir de la place dans une université au Canada.
En fait, c'est la condition sine qua non pour obtenir le document d'immigration aujourd'hui. Vous ne pouvez pas obtenir les visas, les permis d'études si vous n'avez pas forcément suffisamment des moyens financiers. Et quand je parle des moyens financiers, si j'ai dit la capacité de payer les frais de scolarité de la première année, la capacité de payer les frais de subsistance de la première année, donc 20 635 dollars canadiens, la capacité de payer les frais d'assurance maladie et hospitalisation, de payer les frais d'installation, parce que quand on arrive, il faut s'installer, c'est à peu près 1000 dollars, et les frais des billets d'avion ainsi que les frais d'assurance maladie et hospitalisation. Donc il faut comptabiliser tous ces frais pour être à mesure d'élaborer un budget qui réellement vous donne plus de chances d'obtenir les documents d'immigration, notamment les visas et les permis d'études.
Je retourne au standard. Il y a un auditeur, Monsieur Emmanuel, on lui donne la parole et puis je reviens ici. Monsieur Ismaël, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à l'invité.
On vous donne la parole.
Oui, bon, pour revenir à ces bons propos, je pense que pour éviter d'être escroqué, mais c'est juste que la vérification a suivi, cela a aidé beaucoup de personnes pour ne pas aller faire vider un peu les poches. Moi, personnellement, je me contente d'être en RDC plutôt que d'envisager d'aller ailleurs. Cela peut donner aussi la garantie pour les autres. Mais pourquoi les gens envisagent d'aller étudier ailleurs? Vous avez vu notre système éducatif. Qu'est-ce qu'on dit, bon, parmi les classements mondiaux, toutes les universités de la RDC, aucune n'est qualifiée, n'est notariée que ça fonctionne comme une université. Mais cela donne aussi l'envie aux autres d'aller aussi de l'autre côté. Mais vous voyez si c'est une offre qui se présente pour un étudiant ou un monsieur congolais qui a besoin d'étudier à une université.
Monsieur Ismaël, allô? Monsieur Ismaël, est-ce que vous m'entendez? La liaison se dégrade avec Ismaël, c'est comme s'il est au marché. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ismaël?
Allô?
Oui, on vous écoute. Allez-y, on s'était coupé avec. Il y avait beaucoup de bruit ambiant là, on vous écoute. Monsieur Ismaël, malheureusement, il y a beaucoup de bruit ambiant et puis la communication s'est désagrégée avec la ville de Lubumbashi. Monsieur Emmanuel a écouté Ismaël, il dit il est en train de faire une comparaison entre la qualité de la formation ici au pays et puis à l'étranger. Et voilà pourquoi les parents ou les étudiants, certains candidats préfèrent aller parachever leurs études à l'étranger. Mais qu'est-ce que vous leur conseillez en conclusion pour éviter de tomber ou de se faire arnaquer pendant les processus de démarche?
Il est vrai que, effectivement, la qualité de la formation au Canada est des très, très... en fait, la qualité est la meilleure, parce que le Canada, c'est 35% des théories, 65% de la pratique. Et alors, c'est ça qui fait que ces pays, effectivement, avancent très nettement. Moi, ce que je conseille, j'ai dit la même chose, en fait, de ce que j'ai dit tout au long de cette émission. Il faut vraiment s'assurer de l'identité de la personne qui vous accompagne. Est-ce que la personne a l'expertise et l'accréditation nécessaires pour pouvoir vous accompagner? Et ça, c'est très, très important. Alors, si vous aussi, vous réunissez les conditions nécessaires, notamment les moyens financiers, vous pouvez faire affaire avec la personne. Mais je rappelle que moi, j'ai étudié au Congo, je suis originaire de l'Est du pays, à Uvira plus précisément, donc j'ai fait l'essentiel de mes études là-bas. Vous pouvez aussi réussir en étant au Congo. Au Canada, oui, mais au Congo, on peut aussi réussir.
Tout à fait.
Si vous n'avez pas le moyen, des grâces, vous faites pas arnaquer. Donc, vous pouvez constituer votre avenir aussi en étant sur place au pays.
Alors, le numéro de contact pour ceux qui aimeraient se faire accompagner par votre cabinet, est-ce qu'il y a un site internet dédié ou un courriel, M. Emmanuel Kambi?
Alors, le site internet, c'est étudie, donc etudy.ca, www.etudy.ca, donc CA. Mon numéro de téléphone, c'est le 819-342-4000. 819-342-4000. Alors, le courriel, c'est gestion@commercial.etudy.ca. Etudy, je rappelle avec Y, etudy.ca. Alors, vous pouvez m'écrire, ça me fera vraiment plaisir de vous accorder du temps gratuitement pour échanger avec vous et répondre à vos questions.
Et ici à Kinshasa, puis à Lubumbashi, votre cabinet reçoit des clients quel jour de la semaine et de quelle heure à quelle heure?
Et j'avoue qu'on a beaucoup de demandes. Alors, nous, on est ouvert effectivement de 8h30 à 16h30. Et on peut parfois faire des exceptions jusqu'à 17h, mais généralement jusqu'à 16h30. Donc, ce que vous pouvez faire, comme il y a beaucoup de demandes et des listes d'attente, vous pouvez juste effectivement me contacter directement. Et ensuite, nous, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous en ligne. Et quand on va vous sélectionner, vous allez vous présenter et vous allez rencontrer plusieurs de mes collaborateurs qui vont pouvoir vous accueillir effectivement sur place. Et souvent, on fait un appel audio directement quand vous arrivez sur place. Comme ça, vous me parlez directement, même si je suis physiquement au Canada. Donc, on va échanger directement aussi.
Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Kambi. Nous rappelons que vous êtes cofondateur et directeur général d'Etudy, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui désirent étudier au Canada, même en termes d'immigration. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Excellente journée et bon début de week-end. Hein.
Merci beaucoup, Tati. Bon week-end aussi.
Merci. C'est par ici que nous clôturons le magazine Okapi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Étienne Lissoumbou a réalisé ses numéros et Pierre Diassinois s'est occupé de la prise de son. Les rendez-vous est pris pour le lundi la semaine prochaine. Excellent début de week-end.